Chapitre 7. À la pâle lueur du crépuscule, Richard et Cara se servaient de longues et fines racines de pin, pas très difficiles à déterrer quand le sol était ainsi détrempé, pour attacher les uns aux autres des troncs d'arbustes préalablement émondés. Pendant ce temps, Victor et Nietzsche coupaient et collectaient des branches de sapin au pied d'une butte couverte de végétation dont le flanc était presque aussi abrupt que celui d'une falaise. Tandis que Richard tenait les troncs les uns contre les autres, Cara enroulait et nouait les racines qui se révélaient un excellent substitut de corde. Quand elle eut terminé, le sourcier coupa les longueurs excédentaires, qui pourraient sûrement servir à autre chose, puis rengaina son couteau. Puis, il mit en place le toit de bois de cet appentis de fortune, le calant sur une saillie rocheuse et entreprit de le couvrir de branches de sapin. Cara consolida la construction avec des branches qu'elle rajouta à l'ouvrage de l'intérieur et Richard continua à en empiler sur l'autre face du toit. Victor et Nietzsche l'alimentaient régulièrement en matière première. La zone qui se situait sous l'éminence rocheuse était assez bien protégée de la pluie, mais trop petite. Grâce à l'appentis imaginé par Richard, les quatre compagnons auraient assez de place pour dormir confortablement. Comme ils ne pourraient pas allumer un feu, il ne ferait pas très chaud dans l'abri, mais au moins, il serait au sec. La bruine s'était peu à peu transformée en une pluie lente mais régulière. Tant qu'ils marchaient, Richard et ses amis n'avaient pas eu froid. Au contraire, ils avaient transpiré en négociant certains passages délicats. Mais pendant la nuit, le froid reprendrait ses droits. Même si la température n'était pas vraiment basse, porter des vêtements humides donnait l'impression qu'on gelait et les efforts physiques en devenaient deux fois plus fatigants. Si on s'exposait trop longtemps à un climat froid et humide, même modérément, on risquait de gros ennuis de santé. Richard avait même entendu parler de voyageurs qui y avaient laissé la vie. Nietzsche et Cara n'avaient pratiquement pas fermé l'œil depuis 3 jours. Quant à lui, il s'était imposé un drôle de régime pour un convalescent. Avec tout ça, un endroit sec où dormir était indispensable pour éviter que quelqu'un tombe malade. Et il n'était pas question qu'une banale grippe les ralentisse. Tout l'après-midi et une bonne partie de la soirée, le sourcier et son escorte avaient rapidement avancé en direction d'Alterang. Après l'horrible spectacle du charnier autour de l'érable, aucun des voyageurs n'avait eu d'appétit. Conscients qu'ils n'iraient pas bien loin s'ils se laissaient dépérir, ils avaient quand même mangé un peu de viande séchée et des biscuits tout en marchant. Richard avait du mal à tenir debout tant il était épuisé. Pour aller plus vite sans risquer d'être repéré par d'éventuels éclaireurs ennemis, il avait choisi de couper à travers la forêt, loin de la piste principale. Dans des conditions pareilles, plusieurs heures de marche étaient un exercice plus que fatigant. Richard avait mal à la tête, son dos le torturait et ses jambes pesaient des tonnes. Mais s'ils partaient tôt le lendemain et maintenaient le même rythme, ils avaient une chance d'atteindre Alterang en fin de journée. Et lorsqu'ils auraient des chevaux, le voyage deviendrait beaucoup moins pénible. Richard aurait préféré ne pas aller chercher ses réponses si loin, mais il n'avait pas entrevu d'autre solution. Pour trouver Callan, il ne pouvait pas fouiller la forêt jusqu'à la fin de sa vie, en quête d'une autre pierre délogée qui lui indiquerait dans quelle direction chercher. Il ne découvrirait peut-être plus d'indices de ce genre, et même s'il en dénichait, rien ne disait que ça le mettrait sur la piste des ravisseurs de Callan, qui pouvait avoir changé 10 fois de direction depuis le matin de la bataille. Les empreintes normales avaient été effacées par magie. Comment faisait-on pour suivre une piste ainsi oblitérée? Richard n'en savait rien. Et le don de Nietzsche ne suffirait pas à supposer qu'elle finisse par croire son ancien prisonnier, ce qui n'était pas gagné d'avance. Tourner en rond n'apporterait rien. Même s'il détestait s'éloigner de l'endroit où il avait vu Callan pour la dernière fois, Richard savait qu'il n'avait pas le choix. Il avait besoin d'aide et ça impliquait un long voyage. Pour l'heure, il construisait le refuge en pensant rigoureusement à autre chose. Inquiète pour lui, Cara ne le lâchait pas du regard, comme si elle avait peur de ne pas être prête à le rattraper quand il s'écroulerait. Tout en travaillant, Richard réfléchit à la possibilité, faible mais réelle, que des soldats de l'ordre fouillent la forêt à leur recherche. En même temps, il s'interrogeait sur l'identité du ou des meurtriers des hommes de Victor. Ces monstres étaient peut-être aussi à leur trousse à présent. Richard recensa les précautions supplémentaires qu'il était en mesure de prendre, Puis il tenta de déterminer comment il combattrait un adversaire capable d'une telle violence. Mais Callan restait sa préoccupation principale. Après avoir passé en revue tous ses souvenirs du maudit matin, il se demanda si sa femme était blessée. La simple idée d'avoir commis une erreur le jour de la disparition lui nouait les entrailles. Et maintenant, rongé par les doutes et l'angoisse, Callan devait se demander s'il arriverait à temps pour empêcher ses ravisseurs de la mettre à mort. Au prix d'un combat de tous les instants, Richard parvenait à ne pas penser que sa femme n'était peut-être déjà plus de ce monde. En revanche, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer tout ce qu'elle endurait peut-être. Pour un prisonnier, il existait parfois de pires sorts qu'une exécution sommaire. Il avait jadis payé pour le savoir. Et aux yeux de Jagang, Callan avait plus de valeur vivante puisqu'il pouvait la faire souffrir. Depuis le début du conflit, l'inquisitrice sabotait les plans de l'empereur et transformait certaines de ses victoires en débâcles. La première force expéditionnaire de l'Ancien Monde avait, entre autres exactions, massacré tous les habitants d'Ebinitia, une mégalopole de Galéa. Callan avait découvert la cité dévastée peu après le passage d'une troupe de jeunes recrues originaires de ce pays membre des contrées du milieu. Fou de douleur et de rage, ces jeunes gens, se fichant de devoir combattre à 1 contre 10, avaient décidé de faire payer aux soudards de l'ordre le viol, la torture et le meurtre de tous les êtres qui leur étaient chers. Callan avait rencontré les hommes du capitaine Bradley Ryan alors qu'il se préparait à livrer contre les bouchers de Jagang une bataille en règle. On l'eût dit sorti tout droit d'un manuel militaire, qui les aurait conduits inexorablement à leur perte. Manquant par trop d'expérience, ces jeunes braves croyaient possible d'obtenir une victoire en dépit des données arithmétiques et stratégiques. La future épouse de Richard savait comment les hommes de l'ordre, des vétérans aguerris, se comportaient sur un champ de bataille. Si elle ne s'était pas opposée au plan de Ryan, les bleus de Galéa auraient été taillés en pièces. Une fois ses défenseurs morts à cause de leur idéalisme aveugle, les envahisseurs auraient pu mettre à sac d'autres villes et terroriser un pays entier. Callan avait pris le commandement et fait en sorte que Ryan et ses hommes oublient toute notion d'honneur et de gloire lorsqu'il s'agissait d'affronter les tueurs de Jagang. Le seul objectif, avait-elle martelé, était d'éliminer les envahisseurs. La méthode qu'emploieraient les jeunes soldats ne compterait pas. Seul le résultat importait. Et de toute façon, lors d'une guerre, survivre à l'ennemi devait être l'unique but d'un combattant. Dans ce contexte, tuer n'était plus un crime, mais l'unique moyen de défendre la vie. Après la théorie, Callan, passant à la pratique, avait appris aux jeunes soldats comment il convenait d'affronter une force 10 fois supérieure en nombre. En quelques jours, elle avait transformé des adolescents en hommes capables de se salir les mains lorsqu'il le fallait. Avant de mener ces jeunes gens au combat, Callan était allé seul dans le camp ennemi en pleine nuit afin de tuer le sorcier des impériaux et quelques-uns de leurs officiers. Le lendemain, 5 000 guerriers à peine sortis de l'adolescence étaient partis en campagne contre les 50 000 soudards qui composaient l'avant-garde de l'armée impériale. La bataille terminée, on ne comptait pas un seul survivant dans les rangs de l'ordre. Un exploit militaire sûrement unique dans l'histoire du Nouveau Monde. Le premier coup que Callan avait porté à Jagang. De nombreux autres avaient suivi, et l'empereur, pour se venger, avait envoyé des tueurs à la mère inquisitrice. Tous avaient échoué. Pendant que Richard était prisonnier de Nietzsche, au cœur de l'Ancien Monde, Callan avait rejoint Zed et les troupes de l'Empire d'Aran. Après une bataille longue de 3 jours, les soldats du seigneur Rall avaient perdu tout espoir de renverser la situation. Prenant la place de Richard, l'épée de vérité à la ceinture, la mère inquisitrice avait rendu courage aux troupes d'Aran. La contre-attaque qu'elle avait menée en quelques jours s'était révélée dévastatrice pour le moral des barbares de l'ordre. Callan avait réorganisé l'armée et rendu leur flamme aux Daran. Grâce à elle, ils avaient recouvré le goût de relever les défis. Les troupes du capitaine Ryan étaient venues participer au combat contre Jagang. Pendant près d'un an, Callan avait été l'âme et le cœur de la lutte contre les envahisseurs de l'ordre. Harcelant sans cesse ses ennemis, elle avait élaboré ou contribué à mettre au point une multitude de plans brillants qui avaient coûté des centaines de milliers d'hommes à l'empereur. En affaiblissant l'armée de l'ordre, Callan avait gagné quelques mois d'indépendance à Aydindril, sa ville natale. Pendant la trêve hivernale, elle avait fait évacuer la cité. L'armée s'était alors retranchée en Dara, exerçant un contrôle de fer sur tout l'école qui y donnait accès. Incapable de soumettre la patrie du seigneur Ral, les envahisseurs n'avaient pas pu briser totalement la résistance du Nouveau Monde. Même si cela risquait de ne plus tarder désormais, Jagang n'avait pas apprécié ce contretemps. Callan figurait juste derrière Richard sur la liste des personnes qu'il détestait le plus au monde. Très récemment, il avait lâché un sorcier nommé Nicholas sur la piste des deux époux. Le sourcier et la mère inquisitrice en étaient sortis d'extrême justesse. Richard savait que l'ordre aimait infliger d'abominables souffrances à ses prisonniers. Après lui, Callan était la personne que Jagang rêvait de voir attachée sur un chevalet de torture. Pour la capturer, il n'aurait reculé devant rien. Et pour elle, il avait sans doute déjà imaginé des dizaines de nouveaux supplices. Richard s'aperçut qu'il était immobile et qu'il tremblait, les mains fermées sur des branches de sapin. Kara le regardait sans dissimuler son inquiétude. Il recommença à travailler et tenta de chasser toutes ces idées noires de son esprit. Un peu rassuré, la mort de Sith aussi se remit à l'ouvrage. Le refuge devait être terminé le plus vite possible. Ils avaient tous besoin de repos et, s'ils s'endormaient tôt, repartir dès les premières lueurs de l'aube serait peut-être possible. Même s'ils étaient loin de la piste principale et encore plus d'une grande route, Richard refusait d'allumer un feu. Avec la pluie et le brouillard, d'éventuels ennemis auraient du mal à voir la fumée, c'était vrai, mais par un temps pareil, la fumée avait tendance à rester accrochée au sol. Elle dérivait au gré du vent, et n'importe quelle patrouille de l'ordre serait capable de la sentir. C'était si évident qu'aucun des compagnons de Richard n'avait protesté. Avoir froid était moins terrible que de devoir combattre pour sa vie. Nietzsche tendit à Richard une nouvelle livraison de branches qu'il ajouta à la pantie. Personne ne parlait. Sans doute parce qu'il n'était guère enthousiasmant de se dire que les assassins des hommes de Victor pouvaient rôder dans les environs, attendant pour attaquer que les quatre voyageurs se soient endormis dans leur dérisoire refuge végétal. À dire vrai, la première demi-journée de marche vers Alterang leur avait semblé être une course contre la mort. Pourtant, rien ni personne ne les avait poursuivis. Enfin, apparemment. Car on ne pouvait pas imaginer que des créatures dotées d'un tel pouvoir de destruction était incapable de rattraper des fugitifs dont elle repérait sans peine la piste. Quand on avait soif de sang, on ne se laissait arrêter par rien. De plus, dans la forêt, Richard savait en général toujours s'il y avait des animaux dans les environs, et pour les hommes, il ne se trompait jamais. Pareillement, personne au monde ne pouvait le suivre sans qu'il s'en aperçoive. Un bon guide forestier devait pouvoir retrouver une personne égarée dans la forêt. Pour s'entraîner, Richard et des collègues à lui avaient souvent joué à se pister. Grâce à ces simulations, il savait comment repérer quelqu'un qui lui collait au basque. Dans le cas présent, le problème n'était pas qu'un éclaireur ait pu leur emboîter le pas. En réalité, il redoutait qu'un spectre assoiffé de sang les ait pris en chasse et cette peur les incitait à presser l'allure. Une erreur peut-être, car voir fuir une victime potentielle incitait souvent un prédateur à lui sauter dessus. Richard avait pourtant conscience que son imagination seule lui faisait sentir le souffle chaud d'un poursuivant sur sa nuque. Dans son enfance, Zed lui avait appris à chercher la cause de ses sensations, afin de savoir s'il fallait les prendre au sérieux ou non. Si on acceptait le choc provoqué par le massacre, Richard n'avait aucun indice lui permettant de penser qu'ils étaient traqués. Il devait donc garder son quant à soi face à une émotion compréhensible mais irrationnelle. Souvent, la peur était la plus grande menace, car elle poussait les gens à des actions irréfléchies qui les mettaient en danger. L'angoisse empêchait les êtres humains de penser, et dès qu'ils cessaient de se fier à leur intelligence, ils faisaient souvent d'énormes erreurs. Dans sa jeunesse, Richard avait souvent dû partir à la recherche de voyageurs égarés dans la forêt de Heartland. Un jeune garçon qu'il pistait depuis 2 jours était tellement affolé qu'il courait droit devant lui, même après la tombée de la nuit. Il avait fini par basculer dans le vide. Par bonheur, il n'avait pas fait une très longue chute, et Richard l'avait retrouvé au fond d'un ravin avec une cheville foulée mais pas cassée. Le garçon avait froid, il était épuisé, et il mourait de peur. Mais il l'avait échappé belle et il le savait. Sur le chemin du retour, il s'était montré ravi que son sauveur l'empêche de faire de nouvelles bêtises. Il y avait une myriade de façons de mourir dans la forêt. Richard avait entendu parler de gens dévorés par un cougar ou mordus par un serpent. Mais qui avait tué les hommes de Victor? Il n'aurait su le dire car il n'avait jamais rien vu de pareil. Une seule chose était sûre, ce n'étaient pas des soldats. Il aurait pu s'agir de sorciers ou de magiciennes utilisant un pouvoir jusque-là inconnu, mais il ne croyait pas à cette explication. En fait, il était intimement persuadé d'avoir affaire à un monstre. Qu'il ait raison ou non, il avait pris toutes les précautions qui s'imposaient. Pour s'éloigner de la clairière, il avait fait suivre à ses compagnons le lit de plusieurs petits cours d'eau et il avait choisi de les ramener sur la terre ferme à un endroit où le sol rocheux ne risquait pas de garder trace de leur passage. Ensuite, il avait recommencé cette opération chaque fois que c'était possible, histoire de compliquer la tâche à d'éventuels poursuivants. Lorsqu'on avait de l'avance, tout ce qui aidait à la conserver était pain béni. Le refuge de cette nuit était conçu pour se fondre dans le décor. À moins de passer très près, on ne pouvait pas le remarquer. Victor arriva avec une cargaison de branches de sapin qu'il posa au pied de Richard. « Il t'en faudra d'autres ?» Du bout d'une botte, le sourcier évalua la quantité de matière première que lui apportait le forgeron. « Non, avec celle que Nietzsche va ajouter, ça devrait suffire. » Nietzsche laissa tomber sa collecte à côté de celle de Victor. La voir faire ce genre de travail manuel parut étrange à Richard. Même lorsqu'elle portait des branches de sapin, cette femme avait une distinction de reine. Kara était également d'une grande beauté et son assurance de tous les instants lui permettait d'être toujours en phase, qu'elle soit en train de construire une cabane ou de manier un fléau d'armes face à une horde d'envahisseurs. Lorsqu'elle travaillait dans la nature, Nietzsche ne semblait pas à sa place, comme si elle allait pleurnicher parce qu'elle se salissait les mains. Pourtant, elle n'avait pas ce genre de réaction de grande dame. En réalité, elle ne refusait jamais de faire ce que Richard lui demandait, mais cela semblait lui coûter de tels efforts que ça en devenait presque poignant. Enfin, une personne de sa classe n'était pas faite pour construire des abris dans les bois. Maintenant qu'elle avait apporté toutes les branches requises, la magicienne attendait sous les arbres au feuillage mouillé. Transie de froid, elle se massait les bras pour faire circuler son sang. Richard avait les doigts gelés, et il espérait en avoir terminé vite. Tandis qu'il attachait les branches sur le toit et les poteaux improvisés, il vit que Kara se glissait de temps en temps les mains sous les aisselles. Victor seul semblait ne pas souffrir du froid, sans doute parce que son feu intérieur et sa rage le réchauffaient.
« Si tu allais dormir, »
proposa-t-il quand Richard eut mis en place la dernière branche.
« Si tout le monde est d'accord, je prendrai le premier tour de garde. » « Pour être franc, je n'ai pas tellement sommeil. »
À la colère qui faisait trembler sa voix, Richard supposa que le forgeron ne pourrait pas fermer l'œil avant un sacré moment. Il comprenait la fureur de son ami, qui passerait sûrement une partie de sa veille à se demander ce qu'il dirait à la mère de Ferrand et aux proches des autres hommes. Le sourcier posa une main sur l'épaule de Victor. « Nous ne savons pas à qui ou à quoi nous avons affaire. Si tu entends ou vois quelque chose d'étrange, n'hésite pas à nous réveiller. Et surtout, ne fais pas le malin. Et viens dormir quand ton tour de garde sera terminé. Demain, nous marcherons toute la journée. Nous devons tous récupérer des forces. » Victor acquiesça distraitement. Richard le regarda ramasser son manteau, le jeter sur ses épaules, puis saisir à pleine main des racines affleurantes pour se hisser le long de la pente et prendre son poste sur l'éminence rocheuse d'où il surveillerait les environs. Un moment, le sourcier se demanda si la présence de Victor aurait pu éviter un atroce destin à ces hommes. Mais il se souvint des corps déchiquetés, des cuirasses détruites, des os brisés. Non, il valait mieux que Victor n'ait pas été là au moment de l'attaque. Même une masse d'armes maniée par ses bras puissants n'aurait pas arrêté les agresseurs des malheureux résistants. Nietzsche approcha et posa une main sur le front de Richard.
Tu as de la fièvre. Pas de tour de garde cette nuit. Nous nous en chargerons parce qu'il te faut du repos. »
Le sourcier aurait voulu protester, mais il dut se rendre à l'évidence. Nietzsche avait raison. N'ayant aucune chance de remporter cette bataille-là, il préféra capituler tout de suite. Prête à intervenir dans le sens de sa nouvelle amie, Kara ne perdait pas une miette de la scène. Un étrange son grinçant retentissait dans les ténèbres environnantes. Maintenant que le travail était terminé, il aurait été difficile de l'ignorer. On eût dit que la forêt tout entière bruissait d'activité.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Nietzsche. Richard décrocha du tronc d'un arbre un cocon vide de la taille d'un pouce. Partout dans la forêt, les pins, les érables et les sapins en étaient infestés. « Des cigales ?» dit Richard en souriant. Il fit tourner le cocon abandonné sur sa paume, songeant qu'il s'agissait en somme du spectre inversé de la créature qu'il avait habitée. Voilà ce qu'elles laissent après leur éclosion. Nietzsche examina brièvement le cocon, puis regarda tout aussi vite ceux qui restaient accrochés à l'arbre.
J'ai passé plus de temps en ville que dans la forêt, c'est vrai, mais depuis que j'ai quitté le palais des prophètes, la nature a un peu moins de secrets pour moi. Ces insectes doivent vivre exclusivement dans cette forêt, parce que je n'en ai vu ni entendu ailleurs.
C'est normal. J'étais enfant la dernière fois que les cigales sont nées. Cette espèce sort de terre tous les 17 ans. Ces cigales vivront quelques semaines, le temps de s'accoupler et de pondre, puis il faudra attendre 17 autres années pour les revoir.
Vraiment ?
Demanda Kara. Elle passa la tête hors de l'abri.
Tous les 17 ans ?
Elle réfléchit quelques secondes, puis marmonna.
Elles ont intérêt à ne pas nous empêcher de dormir.
Leur concert est inoubliable à cause de leur nombre, dit Richard. Lorsque des multitudes de cigales chantent ensemble, on entend parfois les variations harmoniques de leur mélodie traverser la forêt comme une vague sonore. La nuit, au début, on se dit que leur boucan est insupportable. En réalité, c'est une berceuse qui aide à s'endormir. Satisfaite d'apprendre que les insectes ne dérangeraient pas son seigneur, Kara rentra la tête dans le refuge. Richard se souvint de son émerveillement. Le jour où Zed, alors qu'il se promenait en forêt, lui avait montré les insectes qui émergeaient après 17 années passées sous la terre. Pour un enfant, l'étrange cycle de vie des cigales était fascinant. « Quand il les reverrait, avait ajouté Zed, Richard serait devenu un homme, puis il lui faudrait attendre 17 nouvelles années. » Très excité, le futur sourcier s'était juré de prendre le temps d'étudier tout à loisir les étranges créatures la prochaine fois qu'elles daigneraient se montrer. Aujourd'hui, il avait le cœur serré en repensant à la période la plus heureuse de sa vie, l'âge de l'innocence. Petit, l'apparition des cigales lui avait semblé extraordinaire, et attendre leur retour 17 ans lui avait paru la chose la plus difficile qu'il aurait à faire. Aujourd'hui, les insectes étaient de retour, mais la vie était passée par là. L'adulte avait bien d'autres soucis en tête. Richard jeta le cocon, retira son manteau mouillé et entra dans l'abri derrière Nietzsche. Puis il réarrangea les branches pour laisser passer le moins de vent possible. Le rideau de végétation étouffa le chant au perché des cigales. En fond sonore, ce bourdonnement régulier aiderait les voyageurs à s'endormir. Les branches de sapin arrêtaient bien la pluie. Au moins, ils allaient passer la nuit au sec. Une paillasse végétale sur le sol leur fournirait un endroit où dormir relativement souple et chaud. Mais même à l'abri des gouttes, l'humidité était telle qu'ils seraient quand même trempés. Chaque fois qu'ils expiraient, des nuages de buées éphémères apparaissaient devant leur bouche. Richard en avait plus qu'assez d'être mouillé. À force de manipuler des branches, il était couvert de morceaux d'écorce, d'aiguilles de pin et de poussière. Ses mains collaient à cause de la sève et il ne s'était jamais senti aussi mal dans des vêtements imbibés d'eau. Au moins, une agréable odeur végétale flottait dans le refuge. Richard aurait donné une fortune en échange d'un bon bain chaud. Il espérait que Callan allait bien, qu'elle était au sec et qu'elle ne tremblait pas de froid. Il tombait de fatigue et le chant des cigales l'endormait. Pourtant, il lui restait des choses à faire avant de se reposer. Le seigneur Hall avait des préoccupations plus pressantes que son manque de repos ou ses touches en souvenir d'enfance. Il devait apprendre ce que Nietzsche savait sur les assassins des hommes de Victor. Il rencontrait trop de coïncidences troublantes dans cette affaire. Pour commencer, le massacre s'était déroulé près de l'endroit où Callan, Kara et lui avaient campé quelques jours plus tôt. Ensuite, les assassins n'avaient laissé aucune trace, en tout cas, ils n'en avaient pas trouvé. À part la pierre délogée de terre, ils n'avaient pas davantage découvert de marques du passage de Callan et de ses ravisseurs. Avant de dormir, Richard était bien décidé à apprendre tout ce que savait Nietzsche.